Radio Okapi.
Nous connaissons tous la situation de la femme de la province du Nord Kivu, des femmes violées, des femmes kidnappées et des hommes qui sont tués mais qui laissent des charges lourdes à cette femme qui reste veuve.
C'est l'alerte du collectif des associations féminines pour le développement CAFED interpelle le gouvernement et justement à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous recevons la ministre Béatrice Lomea du genre famille et enfants. Procès assassinat du médecin camerounais Richard Muzoko à Butembo. Le verdict est attendu aujourd'hui. C'est le tribunal militaire siégeant en audience foraine qui l'a annoncé ce week-end à l'issue de la plaidoirie. Madame, Messieurs, bonjour. Le monde célèbre aujourd'hui 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Cependant, au Nord Kivu, les femmes sont doublement victimes de l'insécurité. Lorsqu'elles ne sont pas directement visées, ce sont leurs pères, frères, époux et fils qui sont tués. Elles se retrouvent ainsi délaissées dans une société où l'autonomisation de la femme est loin d'être effective. C'est ce que déplore en tout cas Isabelle Pendeza du collectif des associations féminines pour le développement CAFED, obligée de porter le lourd fardeau des charges familiales. Sans moyens, ces héroïnes de l'Est du pays demandent de l'aide du gouvernement à l'occasion de cette journée mondiale des droits des femmes. C'est ce que nous dit Rosalie Zawadi.
La paix et la sécurité pour elles et pour leurs enfants, voilà ce que demandent les femmes du Nord Kivu qui subissent les conséquences de l'insécurité depuis plus de 20 ans maintenant. Et lorsqu'elles essayent de se relever dans cet environnement difficile, l'insécurité vient anéantir tous leurs efforts, déplore Madame Isabelle Pendeza du collectif des associations féminines pour le développement CAFED.
Imaginez une femme qui a élevé son enfant et que cet enfant tombe dans les embuscades, dans les massacres, et que c'était vraiment l'espoir pour cette femme. Et nous connaissons tous la situation même de la femme de la province du Nord Kivu. Une femme qui, pour aller au champ, les chats même sont insécurisés. Pour les femmes qui font le commerce, les routes ne sont pas sécurisées. Des femmes violées, des femmes kidnappées et des hommes qui sont tués mais qui laissent des charges lourdes à cette femme qui reste veuve.
Ces femmes du Nord Kivu invitent le gouvernement à mettre en œuvre son programme de sécurisation de l'Est du pays. Car derrière les statistiques des millions de morts depuis le début de cette guerre, se trouvent des femmes meurtries, des enfants délaissés, sans espoir d'un meilleur avenir. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les populations de l'Ituri disent attendre de la nouvelle chef de la MONUSCO son implication dans l'éradication des groupes armés dans l'est du pays. Abordé samedi par Radio Okapi, les habitants de Bunia encouragent Bintou Keita à poursuivre avec la vision de Leila Zerougui et d'aider les autorités congolaises à mettre fin à l'insécurité qui retarde le décollage du pays. Certains habitants de Bunia se sont exprimés au micro de Charlie Omba.
Nos attentes sont nombreuses, voyant ce que Leila Zerougui a fait. Leila a fait pas. Et normalement, nous sommes en Ituri, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez, il y a ces problèmes de recrudescence des groupes armés. Alors nous attendons ce qui n'est plus ces mouvements rebelles et si elle va s'appliquer. Alors notre attente, c'est celle de voir que la nouvelle chef puisse apporter encore un plus sur ce qu'avait fait Leila Zerougui.
C'est d'abord la paix, parce que en Ituri, l'insécurité prévaut. Non seulement en Ituri, la nouvelle chef doit d'abord prôner toujours la paix et le bien-être de la population. La population doit vivre calmement, aisément, très bien. Pourquoi? Parce que lorsque la population vit aisément, donc ça va aussi faciliter le développement du milieu.
Je vous le disais en titre, le verdict dans le dossier de l'assassinat du médecin camerounais, le docteur Richard Muzoko, est attendu aujourd'hui à Butembo. C'est le tribunal militaire siégeant en audience foraine qui l'a annoncé ce week-end à l'issue de la plaidoirie. Le ministère public a requis une peine de 3 à 5 ans pour les 3 médecins congolais qui sont à la barre et une peine capitale pour le docteur Munda Mawitende, un autre médecin congolais qui est en fuite selon le tribunal. Ces médecins et d'autres prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs assassinat, terrorisme et d'autres infractions. Rappelons que le médecin épidémiologiste camerounais avait été assassiné par un groupe Mai Mai en avril 2019. Florida Karambou, reportage.
Le docteur Mundama Witende avait quitté le pays en juin 2019, 2 mois après l'assassinat du docteur Richard Muzoko. Dans son réquisitoire, les ministères publics le considèrent comme cerveau moteur de l'assassinat du médecin camerounais. Ce quatrième médecin congolais, qui est considéré comme étant en cavale, a été régulièrement cité par ses 3 collègues qui sont à la barre, notamment docteur Sangala, docteur Luendo et docteur Kasereka. D'après eux, c'est lui qui aurait évoqué l'idée de chasser les experts non originaires. Cependant, avant que la nouvelle de sa fuite soit annoncée, docteur Mundama avait été interpellé et écouté par le service des renseignements civils dans la même affaire. Sorti à Butembo via l'aérodrome de Rwanda, Dr Mundama avait fait savoir que toutes les autorités municipales, civiles, militaires et policières étaient informées de son départ. Notons que 2 des 8 prévenus qui sont à la barre travaillaient dans la riposte contre Ebola au compte des groupes Mai Mai. Le ministère public a requis pour eux une peine de 20 ans chacun. Pour sa part, l'université catholique du Graben, qui constitue la partie civile et dont l'assassinat avait eu lieu dans la scène de ses cliniques universitaires, réclame une réparation de $400,000 pour les préjudices subis lors de cette attaque. Tous les 8 prévenus ont plaidé non coupables. Les prévenus en cavale, qui s'étaient évadés de la prison de Kangwai à Beni, pourront être condamnés par défaut. Butembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
La mission MONUSCO PNU dans ses jours à Kalemi a abouti samedi à la validation d'un plan annuel de travail. Ce résultat survient au bout de l'atelier de planification du projet conjoint pour la réforme de la justice dans la province du Tanganyika. Les acteurs judiciaires et pénitentiaires ont pris part aux travaux de mise en œuvre du projet. L'activité a bénéficié d'un appui des autorités provinciales. François-Xavier Mibé, reportage.
Les représentants de la loi ne peuvent pas juger les morts.
C'est en ces termes que le docteur Zidiana Sakina d'Aide Médicale Congo réagit à la clôture de l'atelier de planification du projet de réforme de la justice au Tanganyika.
Les détenus ont besoin de tous les droits, sauf les droits de la liberté. La première cause de mortalité dans la prison, c'est la malnutrition.
Pour la MONUSCO et le PNUD, le Tanganyika fait partie de 2 autres provinces de la RDC ciblées par ce projet, le Nord Kivu et le Kasaï central. Cette province a connu de périodes de troubles sanglants illustrées par des exactions dans les conflits Toi-Bantou. Le Tanganyika est une nouvelle province qui ne dispose pas encore d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires qui répondent aux normes internationales. Un membre de la société civile, Belinda Mongola,
il siège un peu sous l'arbre. Si maintenant il pleuvait, que les audiences foraines sont en cours, comment ça pouvait se passer?
Le plan annuel de travail, étalé à 4 ans, prévoit la construction d'un palais de justice qui n'a jamais existé au Tanganyika. Un palais qui doit abriter toutes les institutions judiciaires civiles de la province basée à Kalemi. Il y a enfin la construction d'une nouvelle prison centrale, l'ancienne, construite à l'époque coloniale, pour une capacité de 250 détenus frôle aujourd'hui 1000 pensionnaires. Kalemi, François Djabimbe, Radio Okapi.
Direction le Kasaï oriental. La ville de Mbujimayi peut devenir un grenier alimentaire si l'on réhabilite les routes de dessertes agricoles. C'est ce que pensent les producteurs du secteur agricole. En effet, bon nombre d'habitants des localités des territoires du Kasaï oriental s'adonnent à l'agriculture, mais plusieurs produits vivriers récoltés au cours de la saison culturelle A traînent encore dans certaines localités à cause du mauvais état des routes. D'après les agriculteurs, cette situation entraîne le plus souvent le pourrissement des produits des récoltes recherchés dans les centres de consommation. Plus de détails dans ce reportage signé Esther Ndalafina.
Plusieurs produits agricoles, dont notamment le maïs et le manioc, aliments de base de la province, traînent dans les centres de production après cette saison culturelle à cause du délabrement des routes de dessertes agricoles. Pendant ce temps, les centres de consommation d'Mbujimayi ne cessent d'enregistrer les ruptures des stocks suivies de la hausse de prix des produits vivriers. Les femmes commerçantes lient cette situation au mauvais état de la route. Ngomba Marie est vendeuse de maïs. Le problème, c'est l'état des route. Nous marchons à pied notamment sur la route Moneditu. Les marchandises pourrissent sur la route. Les conducteurs qui empruntent les routes Nganaji-Kambujimayi, Luputa-Mbujimayi ainsi que Munkamba-Mbujimayi sont disposés à acheminer les produits vivriers mais déplorent cependant les mauvais états des routes. Innocent Lopungu est chauffeur.
La route n'est pas praticable. On nous feinte par les gens d'éclair là qui nous font l'entretien de la route. Des gros véhicules qui font Nganaji, ils font 4 à 5 jours pour arriver ici au centre-ville de Mbujimayi. mal.
Par contre, la hausse des prix des produits vivriers est loin de trouver une issue heureuse. La réhabilitation des routes de dessertes agricoles peut facilement relier les agriculteurs aux centres de consommation et faire de la ville diamantifère un grenier alimentaire. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Province du Maniema, l'agence allemande pour le développement GIZ vient de lancer un nouveau projet pour la mise en œuvre des plans de développement local élaborés et validés dans 4 secteurs du territoire de Kailo. C'est dans le cadre de l'accord RDC-Allemagne. Ce projet de 5 ans met l'accent sur la dimension environnementale, annonce faite par la chef de bureau de la GIZ ce week-end lors de la cérémonie de validation du plan de développement local du secteur d'Amboué. Petra Lahan, chef de bureau de l'agence allemande pour le développement, explique au micro de Florence Kizalunga.
Vos recommandations, c'est bien noté et nous sommes sur la même page. Pour le Balanga, on a relancé le processus. C'est le même pour les tables rondes. Oui, c'est aussi prévu de mettre ça sur place. Ça, c'est clair. Pour la GIZ, les PDL, c'est seulement le début des processus. Parce que c'est pas un document on va mettre dans la vitrine, on laisse là-bas pour 5 ans, après on va, ou on n'a rien fait. Non, c'est pas comme ça. Je donne pas l'argent de faire un document qu'on n'utilise pas. Pour la GIZ, c'est essentiel qu'on va mettre en œuvre ensemble les activités. Et là, on a déjà les bonnes nouvelles. On a ce nouveau projet Pirette Maniema qui est commencé le 1er mars. C'est un projet de 5 ans qui va vous aider de mettre en œuvre des activités des PDL. Bien sûr, on ne peut pas tout réaliser peut-être dans le premier an, que je pense que vous avez besoin aussi, pas seulement un appui financier, mais aussi un appui technique. Nous sommes aussi là, comme la GIZ, vous aider, de vous connecter avec les autres bailleurs de fonds, avec les autres institutions techniques.
Retour à Boutembo. Le directeur du service de contrôle et de la paie des enseignants, Sekopé Nord Kivu 2, déclare que la paie des enseignants pour le mois de février a connu un retard sur toute l'étendue du territoire national. Paul Mpeti a donné cette précision ce week-end à Radio Okapi en réaction aux indignations des enseignants membres du CIECO Kitsumbiro dans le territoire de Lubero. Ces derniers ont dénoncé en ce début du mois de mars le fait qu'aucun enseignant de cette sous-division de l'EPST n'avait touché son salaire de février dernier. Tout en partageant leur inquiétude, le directeur du CECOP Nord Kivu 2 dit déplorer le canal utilisé par ses enseignants pour exprimer leur indignation. Paul Mpeti et Yenga s'expriment au micro de Florida Kahambu.
Pour savoir pourquoi les enseignants ne sont pas payés, en tout cas, cette question pouvait être mieux posée aux banques payantes. Nous avons la TMB et nous avons la Raoubank. Mais je vous informe que la Raoubank a envoyé les messages le mardi. Le matin, nous avons commencé à toucher. Donc, la paie a déjà commencé et puis c'est pas seulement ici à Boutembo. La paie a connu un retard à travers toute la République. Bon, les raisons, moi, je connais pas. C'est pas seulement à Kitsumbiro. Alors, si s'acharne à demander pourquoi ils ne sont pas payés, bon, ils n'ont pas tort parce que ventre affamé n'a pas d'oreille, mais ils devraient venir peut-être auprès de nous pour demander pourquoi nous ne sommes pas payés. On allait leur dire tout simplement que c'est un problème général à travers toute la République. Les syndicats, c'est un partenaire de l'EPST. Même à Kinshasa, les CIECO, les SINECAT, tous ces syndicats-là travaillent en harmonie avec notre ministère au niveau national. Mais pourquoi pas ici? S'ils ont un problème, ils n'ont qu'à venir. Et ils ont tous mes contacts. Moi, je demanderai à ces camarades-là de ne pas avoir l'habitude d'aller toujours à la radio.
Par ailleurs, le CIECO Lubero, qui accuse le même problème que celui de Kitsumbiro, indique que pour les enseignants payés par la TMB, aucun programme de déploiement des agents mobiles TMB n'est encore connu dans le Lubero. Et puis cette triste nouvelle, l'artiste musicien congolais Joski Kiambukuta est décédé hier dimanche 7 mars ici à Kinshasa après une longue période de maladie. À l'âge de 72 ans, ce chanteur et compositeur laisse une riche discothèque pour les fans de la rumba congolaise. Pour la petite histoire, Joski Kiambukuta a rejoint le tout-puissant Ok Jazz de Franco Luambo Makiadi en 1973. En 1989, à la mort de Luambo Makiadi, l'Ok Jazz continue à se produire sous la présidence de Lutumba Simaro. Et en 1994, Joski Kiambukuta, Lutumba Simaro, Ndombe Opetum et les autres créent l'orchestre Banaoke. C'est dans ce groupe qu'il a évolué jusqu'en 2001, paix à son âme.
Actualité, Afrique Monde.
Climat tendu au Sénégal, secoué depuis mercredi par des manifestations qui ont fait au moins 5 morts confirmés avec le décès d'un jeune homme dans la région de Kolda samedi, confirmé par la gendarmerie. Des troubles qui font suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de troubles à l'ordre public. L'opposant est accusé de viol dans une première procédure. Une coalition de partis et de mouvements de la société civile a lancé un appel à des nouvelles manifestations pacifiques à partir de ce lundi 8 mars. Les cours seront donc suspendus dans des écoles et universités toute cette semaine pour des raisons de sécurité, a annoncé le gouvernement sénégalais. Plusieurs entreprises ont déjà annoncé qu'elles resteraient fermées. Le médiateur de la République a par ailleurs appelé le président Macky Sall à s'exprimer. Alioune Badara Cissé, membre du parti au pouvoir mais personnalité réputée indépendante, met en garde.
L'invité.
Il s'agit de Madame Béatrice Loméa Tilité, ministre du Genre, Famille et Enfants. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, elle lance un message d'espoir à toutes les femmes congolaises et parle des défis qui restent à relever dans le combat pour l'application effective des droits des femmes en RDC. Béatrice Loméa Tilité s'entretient avec J.R. Lungembo.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour, bonjour la radio Capi.
Le monde célèbre ce lundi la journée internationale des droits de la femme. C'est l'occasion pour les États et les gouvernements de réfléchir sur les avancées réalisées dans la promotion de la femme. Alors, quelle est la situation de la femme congolaise aujourd'hui?
Bien, vous l'avez dit, la journée internationale donne effectivement l'occasion pour faire les points sur les avancées dans le respect des droits des femmes. À ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, il faut dire que du point de vue texte et du point de vue texte juridique qui garantissent les droits des femmes, nous avons vraiment une avance. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent plus dans notre pays, c'est l'application des lois. C'est l'application des lois. Nous sommes sur la bonne voie puisque le fait que c'est déjà consacré dans les textes, nous continuons à sensibiliser, à nous battre pour l'application. Je pense que petit à petit, commence à aller puisque les indicateurs sont bons.
Cette année, l'objectif poursuivi, tel que traduit dans le thème retenu dans le monde ou encore en RDC, est de renforcer le leadership féminin. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème?
Oui, renforcer le leadership, ça va toujours dans ce même sens où il faut effectivement continuer à s'assurer que la femme est mise à contribution pour faire avancer le leadership de la femme. Donc la femme doit être là aux côtés de l'homme puisque nous disons toujours qu'elle représente plus de la moitié de la population. Donc on ne peut pas s'attendre à un développement durable à la laisser de côté. Donc ce leadership-là doit être réaffirmé dans la mesure où nous devons de plus en plus voir les femmes en train de conduire tout ce qu'il y a comme initiative de développement, être présent dans toutes les instances de prise de décision, dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc c'est un rappel pour dire que c'est vraiment une obligation, une nécessité. Si nous voulons aller de l'avant, nous continuons aussi à rappeler que les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter les textes que nous-mêmes nous avons pris délibérément. Donc c'est un combat qui est tout à fait normal, qui est justifié.
Dans un passé récent, en RDC, les autorités, la société civile et les femmes elles-mêmes avaient consenti les efforts pour l'autonomisation de la femme. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, l'autonomisation de la femme, c'est un processus, c'est comme ce qu'on dit aussi, cette participation politique, c'est vrai, nous y travaillons. D'abord les textes, vous allez vous rappeler que même déjà au niveau du ministère, je viens d'ailleurs de lancer les travaux pour l'élaboration d'une stratégie d'autonomisation de la femme congolaise et qu'ils aient aussi les avantages que octroie cette économie formelle. Donc nous disons que c'est aussi une autre bataille qui vaut son pesant d'or, puisque tant que la femme n'est pas autonome économiquement, il y a beaucoup d'aléas. Une femme qui n'est pas autonome économiquement et aussi vulnérable et sujette à ces violences. C'est un processus. La gratuité de l'enseignement qui a donné aussi un coup de pouce, parce que dans son temps, avec tout ce qu'on a comme des contraintes financières, il y a des milieux où la jeune fille était plus sacrifiée parce qu'on considérait que lorsqu'il n'y a pas assez de moyens, il faut envoyer plus les garçons à l'école. Mais aujourd'hui, avec cette gratuité de l'enseignement de base, ça a contribué effectivement à accroître le taux de participation des filles à l'école. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Le chef de l'État a décidé de cette gratuité de manière générale, mais aussi les partenaires qui nous accompagnent. Je pense qu'en tout cas, et pour tous ces combats, nous sommes sur la bonne voie, quitte à tenir les quatre pour qu'on finisse, nous puissions effectivement avoir des bons résultats.
À l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, quel est le message que vous adressez particulièrement aux femmes et à la société congolaise en général?
Bien, le message, s'il faut se référer à notre thème, déjà le thème national qui découle du thème international, nous parlons du leadership féminin dans ce contexte sanitaire où le monde continue à être secoué par la pandémie à coronavirus. Par là du leadership, nous voudrions effectivement appeler les femmes à maintenir le cap. Et Et donc, les femmes ne doivent pas baisser les bras. Et l'urgence, c'est de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette pandémie et que la vie revienne à la normale. Et en même temps, en ce qui concerne notre pays, nous avons ajouté l'aspect numérique. Le fait que nous soyons paralysés par cette pandémie a démontré combien il était important de s'imprégner des numériques. Puisque n'eût été le numérique aujourd'hui, peut-être que le pays serait à l'arrêt. Les nations, nous ne tiendrons plus de réunions. Donc, les femmes sont appelées aussi à se former en ce qui concerne le numérique. L'espoir est permis que toutes les femmes restent mobilisées, mais aussi les hommes. Pour ce combat, les femmes ne gagneront pas seules.
Combien de femmes ont accès au numérique?
C'est vrai, le taux est faible, mais il faut commencer quelque part. Avec ce taux faible, nous allons sensibiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tu vois le niveau de formation, là où les femmes peuvent se limiter, en tout cas pour chaque catégorie. L'important est que le message passe et que les gens comprennent.
Madame la ministre, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invitée, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé-Atilité, répondait aux questions de J.R. Lungembo Luabung Anji. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.